à la défense des forêts des Cévennes, dans la série Contre le délire d'Eon, une émission de Radio Zinzine. Le 9 mars 2014, une rencontre a eu lieu à Forcalquier avec le but de mettre en place une coordination régionale des différents collectifs engagés dans la lutte contre le projet de méga-centrale à biomasse de l'entreprise Eon à Gardanne, dont nous avons déjà beaucoup parlé à Radio Zinzine. Christian Sunt faisait partie des participants. Il est venu déjà la veille, des Cévennes, de Saint-Jean-du-Gard, et nous avons donc profité de l'occasion pour l'inviter dans nos studios. Son métier est forestier et il a travaillé longtemps pour l'ONF. Il fait partie également de l'équipe qui publie la revue Fruits oubliés et a récemment été fortement impliqué dans la lutte contre le gaz de schiste. Il s'est engagé dans la convergence citoyenne pour une transition énergétique. Et c'est à ce titre qu'il a participé à la réunion à Forcalquier le 9 mars. Bonsoir,
bonjour,
salut, salut Christian.
Bonjour.
Donc, Christian Sunt, qui est déjà venu à la radio il y a pas mal d'années,
oui,
je pense.
Oui.
Tu viens de Saint-Jean-du-Gard, non?
Voilà. C'est ça.
Et en fait, c'est parce qu'il y a une réunion demain dimanche de coordination, de, un peu de réflexion autour de, du combat un peu contre cette, ce projet complètement délirant de méga-centrale à biomasse à Gardanne. Donc avec des personnes qui vont venir de, des Hautes-Alpes, du Var, des Cévennes, de, bien sûr de Gardanne, de Bouches-du-Rhône, etc. Pour un peu voir comment poursuivre cette, cette lutte contre cette folie, quoi. Et je ne sais pas où on va commencer, mais en tout cas, toi tu es tu as décidé de venir ici dans le coin pour cette réunion demain, parce que ça fait en gros un deuxième front énergétique, enfin un front négatif pour nous en tout cas. Donc d'abord la lutte contre les gaz de schiste qui est très très fort chez toi, ce serait bien de revenir peut-être un peu là-dessus et comment tu sens et vous sentez dans le Cévennes cette lutte, et parce qu'il y a quand même pas mal de tensions au niveau gouvernemental, on dirait, hein, avec certains ministres comme Montebourg et autres qui essaient de pousser pour quand même développer les gaz de schiste et d'autres qui restent opposés, quoi. Et pour le moment, le président n'a pas changé sa position officielle, si je comprends bien, mais en tout cas, il y a pas mal de tensions en l'air. J'imagine que vous êtes très vigilant sur ça. Et puis, bon, demain, ça va être une réunion sur cette centrale à biomasse à Gardanne, donc on pourrait aussi évoquer ça. Mais comment ça se passe actuellement donc, dans les Cévennes, la question des gaz de schiste déjà?
Bon, sur les gaz de schiste dans les Cévennes, on est pas en pleine actualité, nous, parce que, d'abord parce que les permis qui concernaient, les plus grands permis qui concernaient la zone ont été annulés. On doutait bien que la partie Cévenole montagneuse n'allait pas être impactée à cause de la topographie
hein.
qui ne se prêtait pas à des grandes plateformes, parce qu'il faut une plateforme quand même de 100 mètres sur 100 mètres pour pouvoir travailler, donc c'était difficile de trouver les endroits. Donc on savait très bien que ça allait plutôt être dans la plaine, soit les piémonts, soit la garrigue, quoi, les plaines du Languedoc. Néanmoins, on le voit, les gaz de schiste s'éloignent, aussitôt arrive
une autre affaire.
Ce qui, pour nous, d'ailleurs, c'est un peu le sens de la rencontre qu'on avait organisée à Lézan sur les convergences des luttes sur l'énergie.
Parce que vous avez créé un truc qui s'appelle Convergence citoyenne
pour la transition énergétique.
Oui, et ça c'est quelque chose de juste dans les Cévennes ou ça correspond à quelque chose au niveau national?
Pour l'instant, alors, disons que ça a été issu du grand rassemblement qu'on a fait à Lézan, qui a duré pendant une semaine, où il y a eu plusieurs milliers de personnes, nous on dit 15 000, enfin la police dit 15 000, la presse avait annoncé 15 000, on a repris le chiffre. qui était justement de dire que y avait, les combats sur l'énergie étaient des combats sur le long terme. Il y avait, parce que nous sommes à la fois dans un moment d'épuisement des ressources, c'est-à-dire qu'il faut aller plus loin, plus dur pour les chercher, quelles qu'elles soient. Et d'ailleurs, plus loin et plus difficilement, ça veut dire plus de conflits. Et surtout un modèle économique, industriel qui va dans le sens contraire, qui accroît sans cesse. J'entendais encore à la radio quand je venais vous voir tout à l'heure avec ma voiture que le gouvernement français allait demander à l'Union européenne de revoir sa copie pour aider les industries très consommatrices d'énergie. Et en particulier dans la vallée de la Maurienne, tout ce qui est la production de ce métal qui sert à faire des casseroles, dont je ne me souviens plus.
L'aluminium.
Voilà. L'aluminium est très consommateur d'énergie.
Oui.
Et s'est installé dans les vallées de la Maurienne parce qu'il y avait l'énergie bon marché électrique. Et puis maintenant,
hydroélectrique.
Et puis maintenant, l'énergie devient de plus en plus chère. Et ils veulent demander des aides pour les industries très consommatrice d'énergie. Et malheureusement, beaucoup de notre modèle industriel est très consommateur d'énergie. Donc il y a à la fois une baisse des ressources et un modèle économique qui tend toujours à en consommer de plus en plus. Et a commencé à accentuer avec les transports, le fait que maintenant on transporte énormément les marchandises à cause de la division internationale du travail. Voilà. Donc on est une économie basée sur l'énergie. La conclusion qu'on a, c'est qu'il va y avoir des conflits d'usage sur les territoires. Il faudra, sur les territoires, savoir si on veut des énergies fossiles ou de l'eau, ou avoir de l'eau potable. C'est le gaz de schiste, ce qui est l'enjeu principal. Et on le voit très bien que là, aujourd'hui, pour faire de l'électricité, il faudra savoir bientôt si on veut sur notre territoire une forêt paysanne ou si on veut une sorte de zone, un no man's land de ressources de biomasse. Est-ce qu'on va avoir de la biomasse sur nos territoires ou est-ce qu'on va avoir une forêt avec tout ce que ça veut dire comme contenu? Et je crois que là, il y a des conflits d'usage qui se préparent de plus en plus à l'avenir. Et ben là, on est en plein dedans avec la centrale de biomasse de Gardanne. C'est un véritable conflit de l'usage du bois. Est-ce qu'on veut faire du bois pour faire de l'électricité dans les conditions qu'on connaît, que vous avez déjà abordé, c'est-à-dire mauvais rapport énergétique et en plus dévastation des territoires alentours. Oui. Ou est-ce qu'on veut des forêts à multi-usage? Et là, dans ce cadre-là, c'est sûr que la forêt Cévenole, elle a un avenir de multi-usage, voire même, je dirais même que le patrimoine Cévenole est en danger. Parce qu'on a déjà connu une première attaque sur la forêt, le châtaigneraie Cévenole, parce que l'essentiel de la forêt patrimoniale Cévenole, c'est le châtaignier. Ça a été la première période où les tanins, où il y a des milliers d'arbres, des milliers de châtaigniers greffés sont partis aux tanins.
Pour les tanneries.
Pour les tanneries, voilà. Et aujourd'hui, on risque d'avoir ces anciens vergers, plus ou moins à l'abandon, mais qu'il est assez facile de rénover, qui vont être les premiers qui vont partir, parce que c'est des gros bois, parce que ça fait vite du volume, vite du poids.
Et puis, apparemment, selon Aion, qui est l'entreprise donc allemande qui est propriétaire de cette centrale, qui est pour le moment à charbon, mais qui veulent transformer en biomasse, Le châtaignier est très intéressant calorifiquement. C'est une des raisons pourquoi ils veulent absolument aller là-bas.
Le châtaignier au poids équivalent des bois les plus durs, sauf qu'il pousse beaucoup plus vite. Et sa méthode de régénération, c'est-à-dire le fait qu'il rejette de souche, permet des rotations très courtes. Donc pour la production de bois énergie, biomasse forestière, c'est très intéressant. C'est beaucoup moins intéressant pour la pour la qualité de la qualité de, du bois, du bois, de la forêt. Ça a des conséquences d'appauvrissement des sols, bien entendu, mais aussi de la biodiversité, mais aussi de la qualité des bois produits. En plus, on est quand même dans une logique de coupe industrielle, donc de coupe à blanc.
J'imagine que c'est un peu comme ici, ou ce qui risque de se passer ici, c'est que, parce qu'effectivement, les Cévennes, c'est aussi, comme tu as dit déjà avant, c'est très pentu. Il y a plein de coins où l'accès est très difficile. Où il faudrait dépenser beaucoup de sous pour faire des pistes, etc. Donc, en fait, c'est les parties les plus accessibles qui sont déjà en partie touchées par des coupes, mais qui risquent vraiment de prendre plein la gueule. En tout cas, c'est ce qui risque de faire ici, hein, qu'on va aller vers les zones les plus accessibles, qui sont souvent plus proches des villages, plus proches des gens, et qui, où ils vont faire des grandes coupes rases, des coupes importantes, quoi. Parce que le reste, c'est vraiment très, très, très difficile.
Hein, Alors, ils peuvent aussi s'attaquer au reste, hein, parce que la demande est importante, hein, en quantité, donc en volume. Sachant que si tu t'attaques au reste, tu t'attaques aussi au réseau hydrique. Parce que dès que tu vas ouvrir des pistes, dans les conditions des Cévennes, ça veut dire que tu vas boucher parfois des fossés naturels, au contraire, créer des zones où il va y avoir l'érosion, parce qu'il y aura un chemin justement là où il n'y en avait pas avant. On sait très bien que dès que tu ouvres des chemins, tu crées à la fois des blocages d'eau, mais aussi des sources d'érosion, donc tu détruis les sols. Dès que tu ouvres, surtout quand tu ouvres, pour faire venir des engins
énormes,
beaucoup plus gros que pour une coupe, disons, d'intérêt local, donc tu vas avoir une destruction du sol et ses intérêts. Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'il y aura aussi un second danger, c'est celui de ces coupes à blanc qui, pendant 15 ans, parce qu'il n'y aura pas de reboisement derrière, qui pendant 15 ans vont être de la régénération naturelle sans entretien. Ce qui veut dire qu'il y aura pendant 15 ans une zone très, très combustible. Puisque s'ils s'attaquent à la châtaigneraie des Piémonts, c'est celle qui est envahie par le pas maritime actuellement. Donc s'il y a des coupes à blanc, il y aura à la fois énormément de fougères, genêts et ronces, donc du très combustible, et en même temps, des jeunes peuplements de pins maritimes qui vont s'installer. Ouais. Ce qui veut dire que pendant, je dirais, 10-15 ans, tu vas avoir un milieu qui va être fermé, donc inaccessible pour les habituels usagers de la forêt, ramasseurs de champignons, mais promeneurs, les gens qui... Voilà. Mais qui va être surtout très combustible. Parce que justement, on est quand même... L'idée, c'est d'acheter du bois pas cher. Donc acheter plutôt du bois qui aujourd'hui est à l'abandon. Donc par des gens qui ne vont pas derrière faire de l'entretien. C'est évident que derrière...
Ou replanter, par exemple.
D'abord, il n'y en a plus, pratiquement plus, des aides à la plantation. Et le prix d'achat ne permettra pas de refaire des plantations et d'entretien derrière. Donc on va avoir, dans toutes ces zones qui vont être coupées à blanc, un envahissement par la végétation qui est assez luxuriante chez nous et qui est très combustible. Et je pense c'est une régression. Ça va être une régression au niveau de la nature de la forêt cévenole.
Ouais. systèmes hydriques. Mais en plus, là-dessus, sur cette question de l'eau, il va y avoir deux effets directs. C'est d'un côté plus de dévalement, parce que les pluies cévenoles, on sait qu'est-ce que ça produit en bas dans les vallées. Donc ça, on va avoir des phénomènes comme ce qui s'est passé à Vaison-la-Romaine, multiplié par je ne sais pas combien. Non, à Vaison-la-Romaine. Mmh. Et enfin, oui, Nîmes aussi, c'est inondé. Et puis d'autre part, quand on enlève la forêt, ben l'eau elle part aussi, parce qu'il n'y a plus de retenue de... La forêt c'est l'eau, hein, c'est la ressource en eau.
Oui, donc, oui.
Mais moi je sais pas, là-dessus il y avait quelqu'un des Cévennes, Pierre Buchberger, qui a beaucoup bossé sur ces histoires-là, et il a beaucoup insisté aussi que le Languedoc-Roussillon, il y a une très forte urbanisation en général dans cette région, et que l'eau est extrêmement est au fond un problème, et que ça pourrait être très problématique aussi les sources d'eau pour toutes ces zones si il y a coupe. En fait, on n'a plus les forêts et pour une espèce de je ne sais pas comment dire, mais il y a une gestion d'eau naturelle quelque part qui...
Oui, un effet éponge.
Voilà.
Je veux parler forêt.
Un nettoyage d'eau, etc.
Mmh. Mais moi, je crains, voilà, que surtout. Alors, en plus, dans les zones de Piémont, où il y a beaucoup ce mélange châtaignier-résineux, il y a aussi pas mal de terrasses. Mmh. Alors, les engins industriels. Même y compris ce qu'on appelle les pelles araignées, parce que je pense que le principe va être pelles araignées, c'est-à-dire des pelles d'abattage, des tracteurs débardeurs à fagots, c'est-à-dire qu'on met sur une remorque des fagots de bois moyens. En général, ils vont pas acheter des grosses grumes, hein, des bois moyens. Et après, ces gros débardeurs vont sur des pistes chercher des camions les plus gros possibles. Donc, avec des... bon, ce système-là ne préserve pas du tout les terrasses. Hein. C'est-à-dire que c'est et là, une terrasse qui est éboulée sur un bout, c'est immédiatement du ravinement. Parce que c'est elle qui rejoint cette fonction de d'éponge, de stabilisation. Ouais. Donc là, on va avoir une accentuation des ravinements, de destruction des sols. Et moi, je dirais le plus dangereux, c'est aussi l'embroussaillement qu'il y aura derrière. Je pense qu'on est dans un modèle qui a déjà été étudié. Hein. Tu sais que je suis forestier de profession. Et dans les années 80, on a eu des expérimentations d'abattage par des machines en forêt avec le système que
les abatteuses, quoi.
C'était pour faire du déchiquetage à l'époque, pour faire du bois déchiqueté qui ensuite partait et il y avait la déchiqueteuse au bout, il n'y avait pas l'usine, il y avait la déchiqueteuse, et ça s'est arrêté au bout de 3-4 ans à cause de l'impact négatif que ce type d'exploitation faisait sur les sols et le milieu forestier. C'est-à-dire qu'il dégradait ce type d'abattage dégradait le milieu forestier, compactait les sols, avait un phénomène de disparition de l'humus, donc régénération difficile pour certaines espèces, donc plus d'espèces qui se développaient plus que d'autres, pas forcément les plus intéressantes, etc. Donc on est vraiment... Moi, certains forestiers soutiennent cette modèle éon industriel d'utilisation du bois, je pense que c'est purement mercantile.
Ah ben oui, et surtout à très court terme.
Et à très court terme.
C'est une vision, c'est la vision qu'on a actuellement dans l'agriculture, dans la forêt de plus en plus et tout ça, et des ressources naturelles en général, c'est une vision minière. Donc on a affaire à du minerai. Dans l'élevage, on a des minerais de viande. Dans la nature, il y a des minerais toute la ressource agricole ou forestière, c'est du minerai. Donc on exploite ça comme la mine et après, ciao, on s'en fout du reste. Mais en plus, ce que tu disais tout à l'heure sur les terrasses en Cévennes et tout ça, l'expansion de la forêt sur beaucoup de terres qui étaient autrefois cultivées et aménagées avec des terrasses et tout ça, c'est aussi ça qui a fait que la forêt a pris un tel essor aussi une fois qu'il y a eu cet abandon, la forêt est partie là-dessus. Mais une fois qu'on dégrade ces terrasses et tout, ça va certainement pas repartir de la même manière. Ça va être un bazar phénoménal.
C'est pour ça que nous, on a mené en Cévennes, puisque j'étais forestier en Cévennes, des expérimentations pour revaloriser les terrasses qui n'était plus agricole parce que trop éloigné, mais pour faire du bois de qualité qui soit exploité individuellement, de façon qu'on puisse exiger à ce moment-là l'attraction animale, parce que la valeur que les bois soient sortis c'est par attraction adapté, animale, ouais. par câblage, etc. De façon à ce que et puis comme ces terrasses s'y prêtaient, c'est quand même là où il y a des bons sols, on avait réintroduit des bois précieux dans les zones d'anciennes châtaigneraies où le châtaigneraie était lui au contraire assez dégradé. Mais ça, la politique actuelle induite par Ayon va à l'inverse de cette politique d'amélioration du milieu. Elle va au contraire vers les rotations courtes, vers les coupes industrielles, vers on ne trie pas au moment de la coupe, on ne fait pas de sélection, on coupe tout. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire ce travail qu'on avait fait, parce qu'on avait fait ce travail également sur la châtaigneraie, comment valoriser le châtaignier existant par la sélection de brins de façon à refaire du bois de ce qu'on appelle du bois d'œuvre, du bois de qualité au lieu de faire du bois énergie. Je veux dire que là on est en train de totalement détruire ce modèle de valorisation du milieu qui avait été mis en avant par les forestiers depuis 20 ans. Et je dirais même que ceux qui pensent que ça va éliminer les résineux, alors qu'on pourrait avoir aussi une politique dans les zones à résineux d'amélioration par justement une forêt mélangée, ce qu'on appelle la futaie jardinée, les nouvelles tentatives de recherche qu'on fait sur la forêt aujourd'hui, forêt paysanne ou forêt jardinée, qui sont au contraire de prendre pied, de travailler. Aujourd'hui, toute cette valorisation du bois est complètement cassé. On dénonce, nous, les gaz de schiste, en disant que l'afflux d'énergie fossile à bon marché, comme on nous le dit aujourd'hui, comme ça se fait aux États-Unis, ça va à l'encontre de la diversification. Ça va à l'encontre de l'utilisation du soleil, du vent, etc. Parce qu'on a une sorte de manne qui arrive d'un seul coup et donc on abandonne tout ce qu'on pouvait faire comme travail de recherche pour au contraire économiser l'énergie ou trouver les énergies renouvelables. Non, puisqu'on a du truc encore facile, on va continuer dans la même logique. Et aujourd'hui, dans un forestier, c'est même plus la même logique, c'est un retour en arrière.
Dans les Cévennes, ce qui est bon, ce n'est pas trop le cas ici, ce qui est un peu troublant, mais voilà, que ça rend plus compliqué peut-être votre tâche dans l'opposition, enfin pour expliquer tout ce que tu dis là. Mais d'abord, il faut quand même le dire, le parc national des Cévennes qui a signé un partenariat avec E.ON. Bon, ils disent que c'est pour veiller à ce que ce soit le moins de conneries possible, que c'est mieux qu'ils soient là qu'ils ne sont pas là, et qu'E.ON va venir quand même. Mais n'empêche, E.ON utilise ça, c'est un truc en or pour E.ON qui peut montrer, contrairement au parc, le PNR, le parc naturel régional du Luberon, qui a des baronnies, et il y a une multitude de collectivités ici qui ont voté des motions et délibérations contre E.ON. Là, E.ON peut dire, voilà, nous on a un super partenariat avec le parc. Et deuxièmement, il y a quand même cette fameuse personne qui est présidente de la CRPF, donc la propriété privée, en gros,
centre régional de la propriété,
voilà, et qui est membre des Verts, qui est membre de la Confédération paysanne, et qui insiste que c'est une grande chance pour la région et pour les forêts de la région d'avoir E.ON arrivé. Donc,
je pense que c'est une vision à court terme, spéculative, mercantile, comme je te l'ai dit, et sans doute par pris au nom d'intérêts qui sont pas ceux des Cévenols. Peut-être c'est les intérêts de certains gros propriétaires de bois de résineux de mauvaise qualité qui ont peut-être fait des plantations qui ont été mal suivies, qui sont donc des bois qui restent de petit diamètre et pas tellement valorisables et qui vont être contents d'avoir quelqu'un qui leur prendra toutes.
Mais elle a insisté plus dans le texte que j'ai pu lire d'elle. Elle s'appelle Bourelli, hein, Janine. Bon, elle a insisté sur le fait que pour elle, la châtaigneraie, voilà, c'est malade. Il n'y a pas grand-chose à faire avec cette châtaigneraie. Et que si on coupe tout et que ça repousse, voilà, un peu le taillis, quoi, ça va être très positif. Et qu'est-ce que tu dis là-dessus?
Janine est propriétaire forestier à quelques kilomètres de chez moi.
D'accord.
Donc je connais sa.
Sa vision.
Sa vision et surtout son terrain. Donc effectivement, elle est dans une zone où le châtaignier n'est pas à sa place, c'est-à-dire elle est plutôt dans les zones du chêne vert, et effectivement, là, les châtaigniers qui sont chez elle sont des châtaigniers en limite de sud de zone, sur un versant sud, avec peu de sol de profondeur, donc effectivement, la châtaignier n'a pas beaucoup de... n'est pas à sa place, n'a pas d'avenir. Il était à sa place quand il y avait un entretien en termes d'arbres fruitiers. Mais elle a donc beaucoup reboisé en résineux. D'ailleurs, à mon avis, elle ne vendra pas à Ion. Mais je crois qu'elle n'a pas une vision d'ensemble de ce qu'est la châtaigneraie cévenole. Je dirais que majoritairement, à 60%, la châtaigneraie cévenole mérite un autre traitement,
un autre travail, quoi,
que celui de ce qu'on appelle le taillis, qui est ce qu'elle propose. Moi, j'ai mené des expérimentations, je dirais, à moins de 5 km de chez Janine Bourelli, sur la cortine des Cévennes, où je passe assez souvent devant depuis que je ne suis plus forestier. Eh bien, je vois aujourd'hui de très beaux rejets de châtaigniers qui ont été isolés, sélectionnés et qui aujourd'hui font des petites grumes. Ouais. Et on va, voilà, mais parce que la nature du sol à 5 km chez Janine n'est pas la même que son versant à elle. Elle devrait beaucoup plus sortir de chez elle.
Mais est-ce que tu penses que toi tu as fait des expérimentations il y a quelques années, quoi.
Oui,
mais est-ce qu'il y a encore des tentatives, des choses qui se passent actuellement?
Malheureusement, ces aides ont pu être faites parce que c'était... Moi, je travaillais dans la forêt de l'État grâce au financement public. Malheureusement, ça n'a pas été suivi par des aides à l'ensemble des propriétaires forestiers pour ce type de sylviculture. Depuis aujourd'hui, il n'y a plus de sylviculture. D'ailleurs, il y a très peu d'aides à la sylviculture, et en tout cas, il n'y en a pas la sylviculture s'appuyant sur l'existant. Aujourd'hui, les aides qui ont, je ne sais même pas s'il y en a encore, mais enfin, les aides qu'on bénéficiait, c'était pour le changement de nature. On passerait de forêt de feuillus vers du résineux. Mais pas...
Pas l'inverse.
Pas l'inverse. Et pas l'entretien du... Pas ce travail fin de
sélection
d'amélioration du châtaignier. Ouais. Ça n'a jamais été... Il n'y a jamais eu la moindre aide dans ce sens-là. Donc, ça, c'est ça qu'il aurait fallu mener. Mais je dirais qu'Aon fait tout à fait ce que décrit Janine. C'est-à-dire qu'on va avoir du taillis dont on sait que la valeur n'est que pour le bois d'industrie. Alors que ce soit la papeterie, que ce soit le feu, ou que ce soit les plaquettes, toutes ces choses qu'on utilise. Donc ça, c'est une valeur. Alors je peux dire que pour le propriétaire, ça n'a quasiment pas de valeur. Ça n'a de valeur que pour le transformateur qui va l'avoir à l'usine à un prix dérisoire.
Donc, oui, parce qu'il faut juste, pour rappeler, le concurrence pour Aon, enfin Aon veut acheter le moitié au début sans doute du Canada, mais ça c'est 22 euros le tonne de plaquettes, et selon les chiffres que nous on a eu plutôt pour notre région, mais c'est peut-être pareil chez vous, c'est 49 euros le tonne prix de revient. Donc ça c'est sans payer le propriétaire ni, il faut dire, tous les dégâts des machines sur les routes, enfin tout ce que la commune doit payer, c'est immense, quoi. Donc en fait c'est peut-être trois fois, en tout cas plus de deux fois plus cher le bois de chez nous que le bois de Canada. Donc c'est pour ça que c'est clair qu'Aeon, au fond, ils aimeraient bien tout importer, à mon avis, et j'ai même un peu l'hypothèse qu'ils vont finir par là, avec des pressions sur l'État. Mais bon, en tout cas, c'est clair qu'ils ne veulent pas payer beaucoup.
Voilà, c'est surtout qu'ils vont essayer de ne pas payer beaucoup, parce que importer, ça coûte quand même, il faut quand même que le bois se déplace, et c'est pour ça que le bois énergie
va rester
à ce prix-là. Alors, en plus, pour contredire Jeannine, je pense que c'est une très mauvaise utilisation du bois énergie que de faire l'électricité. D'abord, parce que c'est un mauvais rendement énergétique, et puis en plus les déplacements
sur les centaines de kilomètres,
ça ne peut pas faire pour améliorer le rendement énergétique. C'est fait plutôt, elle devrait s'y intéresser en tant qu'écologiste au problème du climat. Et c'est surtout que on a eu l'information comme quoi au Parlement français, il y avait eu un vote indicatif sur le bois énergie en disant que la meilleure utilisation du bois énergie, c'était pour faire des petites centrales thermiques à proximité de la ressource et non pas la transformation en électricité. Aujourd'hui, l'avenir du bois énergie, c'est des petites centrales thermiques de proximité, en plus peut-être, de l'utilisation paysanne.
Peut-être on pourrait revenir là-dessus, mais on fait une petite pause d'abord et après on continue. Voilà, donc on était toujours en train de parler avec Christian Sunt, donc qui est venu du Gard pour une réunion demain sur cette fameuse méga centrale à Gardanne. Donc, et effectivement, tu parlais de, en fait, ces deux modèles qui sont face à face, une espèce de mastodonte qui arrive, Aeon. Et effectivement, ici, il y a vraiment un travail, c'est ça qui est assez incroyable. L'État donne une autorisation à Aeon. Même s'il y a des gens dans les ministères extrêmement critiques qui savent très bien que c'est vraiment le contraire de ce qu'il faudrait faire, mais on accorde une autorisation.
Ils ne sont pas tous critiques. Hein.
Non, pas tous.
Par exemple, le ministre de l'Agriculture s'est bien gardé d'enfourcher, de rentrer dans la moindre critique là-dessus. Il a même dit sur une question de la députée des Hautes-Alpes, Karine Berger, je crois. Ouais. Il lui a répondu non, mais je suis pas au courant de cette affaire et tout.
Ouais, en tout cas,
la mauvaise foi parfaite. Quoi,
Ce qui est clair, c'est que depuis 10-12 ans, à peu près, il y a un programme en région PACA, mais peut-être aussi, je ne sais pas si ça se passe ailleurs, mais en tout cas, programme Agir, donc, qui a financé la mise en place, aidé la mise en place de chaufferies de taille modeste, dont beaucoup de villages, et à Forcalquier, il y en a, beaucoup de villages. Il y a 55 dans la zone Lure-Luberon. Et ça, c'est ce que beaucoup d'élus ici dans le coin ils ont le sentiment qu'ils ont bossé beaucoup pour ça, qu'il y a eu des aides publiques pour ça, et que maintenant c'est mis en danger en fait, parce que on va doubler, plus que doubler probablement le récolte en bois avec Aeon. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Ça va mettre en danger cette filière locale biomasse, qui est tout à fait, plutôt relativement intelligent. Je veux dire, c'est basé sur un calcul de la ressource locale qui est relativement précise, et on maintenant une forêt avec une certaine multifonctionnalité, quoi, comme on disait avant. Mais ça va aussi, l'arrivée d'Aeon, sans doute casser plus d'emplois que ça va créer, parce qu'il y a la fameuse papeterie, l'usine de pâte à papier à Tarascon, qui emploie 275 personnes, et probablement pourrait péricliter avec l'arrivée d'Aeon. Parce que déjà, Tarascon, ils vont chercher le bois, une partie du bois dont ils ont besoin, dans les Landes et en Bourgogne. Et donc, ils ne trouvent pas assez déjà dans la région. Et on arrive et ils ont besoin à peu près, Tarascon, c'est 1,2 million de tonnes par an. Donc c'est tout petit peu plus même qu'Aïon. Mais Aïon arrive et donc voilà. Donc, et, mais je crois que dans les Cévennes, cet aspect de chaufferie locale est un tout petit peu moins développé, non?
C'est un peu moins développé, ça commence. Mais c'est vrai que les pistes qui avaient été recherchées jusqu'à présent, c'était la valorisation du bois d'œuvre. Tout ce qui est valorisation des résineux dans le Piémont et valorisation du châtaignier, sachant quand même que depuis une dizaine d'années, moi j'ai connu la moitié des scieries déjà, petites scieries qui ont fermé. Ouais. Dans 10 ans, la moitié déjà ont fermé. Donc qui étaient les principaux utilisateurs de bois de châtaignier qu'ils valorisaient pour une clientèle locale, parce que la tradition est que chez nous, on fait de la charpente traditionnelle en châtaignier. Y compris couverture.
Excellente chatte.
Et je pense que Aéon va remettre, pas immédiatement, parce qu'ils ne vont pas acheter les gros bois, mais ils vont aller faire de l'extractivisme dans les petits bois. Donc ils vont extraire la ressource dans 30 ans. Quoi. Et sans renouvellement, puisque leur système n'est pas un système de renouvellement. Donc d'abord, donc, je répète, Jeannine se trompe. Ça n'améliorera pas, ça va dévaloriser, plutôt détruire que d'améliorer. Et surtout, ça va aussi avoir un effet boule de neige en chaîne vers les filières bois de chauffage, c'est évident, parce qu'il y aura une concurrence et elle sera disproportionnée, parce que entre les deux, il y a les bûcherons. Et les carnets de commandes, quand ils sont remplis par les uns, ils ne sont pas remplis par les autres. Donc, les coupes seront achetées par des machines, eh ben, les bûcherons ne pourront plus se mettre derrière au niveau des prix de revient. Donc, les bûcherons locaux vont disparaître, ce qui fait qu'on aura du mal à provisionner les chaufferies locales. Je crois qu'il y a un effet amplificateur du modèle industriel qui détruit les emplois. Ça, on commence à le dire, je l'ai même entendu tout à l'heure à la radio.
Mais il faut dire sur l'emploi qu'il y a aussi un autre aspect là j'ai lu un article très intéressant il y a quelque temps sur l'arrivée des Roumains et bon ils sont déjà là depuis un moment mais des Roumains, des Bulgares et autres des pays surtout de l'Europe centrale et qui viennent avec parce que le travail de bûcheron fait partie des métiers pour lesquels le travail détaché quoi est tout à fait possible quoi même encouragé en quelque sorte et donc actuellement dans les forêts françaises pour le travail de bas de gamme, on pourrait dire, c'est-à-dire justement pour des usines à pâte à papier où on s'en fout, en fait, tout passe, on fait aucun tri, voilà, hop. C'était beaucoup des Turcs et des Marocains, en fait, dans les forêts françaises. Et maintenant, apparemment, on l'a remplacé très fortement par des Roumains et des Bulgares et autres qui viennent avec ce système de travail détaché, donc avec des charges à l'échelle roumaine, donc beaucoup ils épargnent beaucoup d'argent, hein, enfin les employeurs ici en France, et donc c'est tout à fait illusoire à mon avis. Bon, d'abord ça va casser des emplois dans des scieries ou dans des filières bois, ou alors à Tarascon, mais en plus si jamais il y a des nouvelles emplois, que c'est pas que des abatteuses, il y a aussi des bûcherons, mais ça c'est très peu probable que ça va être des Français.
Il est même probable que Aéon va susciter la création d'entreprises dont la chaîne sociale ne sera pas forcément, à Gardanne. Il est possible qu'il traite aussi avec des entreprises parce que c'est.
Pas du tout de chance, oui.
Voilà, amener des engins pendant une saison, s'il se déplace de chantier en chantier, il peut venir très loin, l'engin. Donc, moi, je n'ai. Plus tu concentres, plus tu. Mais l'échelle de production grande, moins tu peux penser que les locaux en tireront
bénéfice.
Donc, je pense que c'est une erreur écologique, une erreur d'usage, Parce qu'il est évident que en Cévennes, il y a des usages, la chasse par exemple, c'est-à-dire qu'à part le sanglier, il n'y aura plus rien d'autre. La biodiversité va disparaître dans ces parcelles
dévastées.
Donc, et rapidement reconquis par une végétation exubérante. Donc on est déjà envahi par la châtaignier, les chasseurs n'arrivent pas à bout, donc on va accentuer ce phénomène. Donc les ramasseurs de champignons, on ne ramasse pas les champignons dans des parcelles des bois de 15 ans. Il faut que ça soit des arbres âgés. Donc tous ces promeneurs moi je suis de Saint-Jean-du-Gard, comme Jean-Luc Bourrelli. Je les vois passer les voitures de ramasseurs de champignons qui montent de Marseille, de Montpellier.
Mais c'est une économie aussi. Voilà. C'est des gens qui cherchent à avoir. Ils viennent parce qu'ils aiment promener.
Et quand ils sont là, ils font des courses, ils vont aux boutiques paysannes, etc. Donc tout ça, c'est quand même une remise en cause de tout ça. Je pense que. C'est une erreur vraiment de vision de l'espace. Mais évidemment, on ne peut pas être président de CRPF et avoir cette vision-là. Hein. Moi, je suis favorable à ce qu'on appelle la forêt paysanne. Mmh. La forêt multifonction gérée par les habitants du territoire. Ce qui n'est pas du tout la politique du CRPF, qui est essentiellement une forêt, je dirais, de type industriel basée sur la spéculation du bois. Donc c'est des commerçants de bois. Donc multi-usages, c'est-à-dire des usages gérés par les gens mêmes. Et ce système détruit complètement cette capacité de multi-usage de la forêt. Donc c'est un choix, je crois que ce qu'on est à nouveau sur un choix de société. Donc,
mais juste parce qu'on arrive vers la fin de cette émission, mais j'aimerais quand même demander maintenant... comment tu vois, est-ce que ça commence à bouger un peu? J'ai entendu vaguement de sorte de collectif au Vigan. Il y a eu 3 réunions, je crois, publiques, Genoliac et je n'ai pas d'autres. Comment ça se passe maintenant par rapport à tout ça?
Il y a à la fois les collectifs gaz de schiste qui, après la réunion quand même de l'Aisance sur la convergence, sont très actifs dans tous les domaines de l'économie de l'énergie, de bonne gestion qu'on appelle durable de nos ressources énergétiques qui se sont affirmés contre l'extractivisme. Et comme tu l'as dit, considérer la forêt comme une ressource minière, c'est l'extractivisme. C'est l'extractivisme de bois. Donc il y a une vraie mobilisation des collectifs gaz de schiste là-dessus, une vraie sensibilisation, pas encore une mobilisation. Et il y a surtout une mobilisation dans les zones où le châtaignier est très important dans la vie quotidienne, parce que les gens y travaillent, parce qu'ils ils élèvent leurs bêtes,
très important,
ils récoltent les fruits, éventuellement ils font des coupes de bois, et donc c'est ce qu'on appelle la zone moyenne Cévennes, moyenne et haute Cévennes, ce qui est le cas du Vigan, où il y a encore 2 scieries, et la Lozère, où il y a encore de nombreuses scieries. Alors en Lozère, il y a eu plusieurs réunions, et voilà, la zone plutôt d'altitude des Cévennes, là où il y a du châtaignier de qualité, et c'est sans doute peut-être celui-là aussi qui vient de reprendre à un moment. Je les vois mal ne prendre que le mauvaise qualité.
Moi je crois, la toute petite tige, c'est tellement cher, voilà. Ils ne vont pas que chercher
voilà.
Ça.
Ils vont aller chercher plutôt les jolies parcelles où il y a des brins de 20-25, ce qui pourrait faire une autre. Voilà. Et ça, c'est quand même une majorité de la châtaigne racinale. Et donc là, il y a une vraie mobilisation, et il y a une mobilisation qui, à mon avis, va dans le bon sens, puisque ce n'est pas seulement une mobilisation contre. C'est une mission pour une gestion patrimoniale de l'espace forestier. Avec cette multifonctionnalité, cette multi-usage du territoire, avec d'autres. Voilà. Et je pense que c'est là-dessus que c'est parti. Et je pense que ce qu'a fait le parc va, je ne donne pas quelques mois avant que ça soit démenti par quelques élus du conseil d'administration du parc. Ça ne tiendra pas longtemps la route, cette attitude. Et c'est vrai que nous manquons en Cévennes, dans la châtaigne racévenole, d'un parc naturel régional. Il est certain qu'en Ardèche, qui est dans la zone des 400 km, il y aura certainement une autre prise d'opposition du parc naturel de la châtaigneraie ardéchoise, qui n'a certainement pas accepté qu'on vienne puiser dans ce qui fait leur spécificité. Malheureusement, la châtaigneraie cévenole, gardoise et héroltaise, et l'Eusérienne a été très mal traitée par le parc des Cévennes qui s'en fout un peu. Il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de...
Il n'y a pas qu'en Cévennes que c'est comme ça. Ouais. Voilà.
Donc, et là, je pense qu'il y a une bonne réaction. Bon, et on va y travailler. Et c'est pour ça qu'on se réunit demain.
D'accord, mais Christian, merci en tout cas. Et en tout cas, c'est un sujet sur lequel on va en tout cas revenir. Et pareil pour les gazéchistes, on a un peu moins parlé, mais je pense que c'est très important qu'on continue à suivre ça. Donc peut-être par téléphone, parce que tu seras un peu moins dans notre coin. On peut quand même suivre ça avec toi dans les mois à venir. En tout cas, merci.
À bientôt.
Et à la prochaine.
Salut. À la prochaine.
Parmi les participants à la réunion à Forcalquier, il y avait également deux membres d'une association environnementale Cévenol, Cèze et Gagnère, dont Laurent Carbonel. Il connaît bien les forêts des Cévennes car, il y a 4 ans, il a été fortement impliqué dans la mise en place d'une charte forestière qui couvre 120 communes dans les Cévennes. Laurent Carbonel.
Ce qui m'inquiète, moi, un petit peu, c'est que les décideurs, donc les élus, on va dire, au sein de du terme, ou les représentants, style centre régional de la propriété forestière ou syndicat des propriétaires forestiers, et les élus qui ont mené ces réflexions autour des chartes forestières, des filières à bois énergie locales, ont tendance à partir tête baissée dans le projet en disant c'est la solution à tous nos problèmes. Et du coup, moi, ça m'inquiète un petit peu parce que je retrouve pas toute la réflexion qu'on a vue dans le cadre de la charte forestière et dans les filières bois énergie locale, qui du reste avait été mis en place il y a 4 ans. Alors voilà, est-ce que c'est un constat d'échec qui fait qu'à un moment donné on plonge dans l'opportunité, le sauveur qui arrive en disant c'est très bien ce qu'on n'a pas réussi à faire, on va essayer de le faire à plus grande échelle avec E.ON. Je pense que c'est un peu inconscient de fonctionner comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas encore les élus ou sensibilisés ou avec un esprit critique suffisant par rapport à ce projet. Et contrairement, moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que quand on vient chez vous, on voit un président de charte forestière, un président de communauté de communes, un président du parc naturel et les élus locaux, les maires qui sont formellement opposés avec un argumentaire qui tient la route. Et chez nous, on retrouve pas ça. Voilà. Donc, à un moment donné, et pourtant, on est dans des territoires où on sait avoir l'esprit critique. On l'a bien vu dans le cadre de la lutte contre les gaz de schiste. Donc, il y a quelque chose à creuser. Et c'est là tout notre travail à travers les collectifs locaux d'aller voir les élus et de les sensibiliser et leur faire peut-être un peu ouvrir les yeux sur cette réalité, quoi.
Parce que là, il y a quand même des collectifs et il y a eu des réunions publiques, non?
Il y a des collectifs qui commencent à se créer, ça arrive un peu tardivement, qui commencent à se créer. Pour notre part, Cèze et Gagnère, nous n'avons fait qu'une réunion publique pour l'instant. Je ne sais pas exactement encore sur l'autre partie du territoire ce qui s'est passé. D'autres parties du territoire s'organisent différemment, pas à travers des réunions publiques, mais à travers d'autres formes d'action. Voilà, je pense qu'on a un petit peu un décalage par rapport à vous. On a commencé un peu plus tard. Si je suis venu donc aujourd'hui dimanche ici à Forcalquier, c'est aussi parce que ça fait du bien de savoir qu'il y a d'autres territoires qui existent avec des mêmes problématiques et qui sont organisés et qui a des résultats. Et que autant pour les gaz de schiste, on était très confiants, on a été assez autonome là-dessus, autant là, on a besoin de l'aide d'autres personnes. Moi, je pense que si un jour, il y a des élus qui ont pris des positions, des élus de chez vous qui ont pris des positions, qui veulent venir parler aux élus de chez nous, ça sera déjà un grand pas pour nous. Donc, je veux dire, nous, on a tout à gagner à être aujourd'hui là avec vous, parce que voilà, vous avez un train d'avance là-dessus, et je pense qu'une prise de conscience qui n'est pas encore là chez nous, quoi.
C'était à la défense des forêts des Cévennes. La quatrième émission dans la série Contre le délire d'Éon. Une émission de Radio Zinzine.